Salut, c'est Juliana Léveillé-Trudel. Je vous présente En Fabulation, un balado tiré du spectacle du même nom présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple. Chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes, ni costumes, ni accessoires. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Vincent, un récit de Marie Boucher, enseignante dans les cantons de l'Est. Bonne écoute!
Deux faces. Deux faces dans mon cadre de porte. Des faces que j'ai pas le goût de voir, pas le goût de comprendre, même si je catche quasiment tout de suite. J'ai eu une suppléance de marde un matin. Quand tu dis de marde, les enfants étaient affreux, impolis, énervés à décrocher du plafond. Je suis vannée. Puis j'ai qu'une seule envie, me saouler dans les cochonneries. Juste avant d'aller me chercher un gros lunch cochon pour dîner, j'appelle mon chum. J'aimerais ça qu'il se joigne à moi. Mais ça répond pas. Puis 11h10 à ce moment-là. Je suis un peu déçue, je me dis, pour une fois que j'avais un peu de temps en après-midi, ça nous aurait fait un moment d'amoureux. Je rentre à la maison en me disant que la prochaine fois, je vais juste me prendre un petit peu plus à l'avance. Je viens à peine de finir de manger que ça sonne à la porte. Ils sont là, dans mon cadre de porte, deux hommes de 6 pieds. Il y en a un habillé en SQ, puis l'autre, c'est le boss de mon chum, le chef de police de la ville de Bromont. Ils ont tous les deux les yeux cloués au sol, juste à côté de leur menton. Je pense tout bas. Il me semble qu'ils ont des drôles d'air pour des gars qui viennent me passer en entrevue. Il faut comprendre que mon conjoint est en processus pour entrer dans la SQ et la dernière étape, c'est l'entrevue surprise avec la conjointe. Le boss de mon chum s'approche de moi. Marie, il est arrivé quelque chose à Vincent. Vincent, c'est mon chum. C'est l'homme de ma vie. Le gars qui est arrivé dans mon existence comme un cadeau. Le jour de ma fête, j'avais 20 ans. Puis c'est ça qui a été un cadeau. Il m'a donné tout son amour. Il m'a offert une maison. Il m'a appris la confiance. Puis il m'a fait rire. Il m'a donné 2 beaux enfants, une famille. Puis ce matin-là, 1er décembre 2011, il est mort. Petit matin ensoleillé. Vincent travaillait sur le bord de la route 139 à Bromont. Il venait d'arrêter une dame pour lui donner un avertissement. Il s'en retournait à son autopatrouille. Au même moment, une femme s'en vient au volant de son camion cube. Elle est bien occupée à regarder le miroir de son côté parce qu'elle a peur d'accrocher le camion qu'elle s'apprête à croiser. Elle n'a jamais vu mon homme sur le bord de la route. À 11h26, le miroir de l'autre bord, celui qu'elle regardait pas, punché mon chum, comme un chevreuil éclaté sur le bord de la 139. Un homme généreux, pince sans rire, ingénieux, travaillant, un homme de cœur aimé et aimant. Fini. Foutu à 37 ans. Les deux grandes faces dans mon cadre de porte n'ont jamais été capables de me dire que Vincent était mort. Je me le suis annoncé moi-même. Il n'est pas mort. Puis les deux grandes polices de 6 pieds, elles se sont mises à pleurer comme des bébés. Sur le coup, moi, je pleure pas. Je comprends rien. Comment ça se fait que mon cerveau n'arrête pas de fonctionner là? Comment ça se fait que mon cœur continue de battre? Puis qu'est-ce que je fais encore debout? Puis je me mets à courir comme une folle dans la maison? Je veux trouver du linge que mon chum aurait porté. Je suis fâchée. Mes lavages sont à jour, puis je trouve rien de lui à sniffer. La peur arrive. La première, celle de plus jamais être aimée, suivie de la peur de ne pas m'en sortir. Après, je pense à mes enfants, puis je me sens coupable de penser à eux en deuxième. Comment je vais leur annoncer ça? Une mère, c'est supposé aller chercher ses enfants à l'école pour les amener chez le dentiste, pas pour leur dire que leur père est mort, puis qu'il ne reviendra plus jamais. J'ai peur des briser. Quand je les vois, je dis juste, mes amours, papa a eu un accident, il est mort. L'instant d'après, je viens de voir que dans ces beaux visages-là, je viens de perdre mes deux bébés, puis que j'ai maintenant deux grands-enfants avant leur temps. Ils ont 8 et 10 ans, et la vie sans leur papa commence aujourd'hui. Le reste, c'est juste un gros tourbillon, un blackout. Le jour du salon, je suis devant le cercueil de Vincent. Il y a la moitié du visage puis presque toute la tête cachée par des bandages. Je suis complètement terrifiée devant ce corps qui est pas Vincent. Puis j'ai peur d'avoir juste cette idée-là dans la tête à présent. Mais je le touche quand même. C'est bizarre. Comme si je tâtais un poulet d'épicerie habillé. Je sais pas comment le dire autrement. Je suis devant l'église. C'est le jour des funérailles. La neige tombe au ralenti. Elle est incroyablement duveteuse. C'est magnifique. On est des centaines de personnes et pourtant le silence est partout. Sauf dans ma tête. Je regarde mes enfants. J'ai peur pour eux. Comment ils vont se remettre de ça? Est-ce qu'ils vont se remettre de ça? Est-ce qu'ils vont devenir dépressifs, suicidaires? Est-ce que leurs adolescences, leurs études vont être gâchées? La cérémonie passe. Les genoux de mes enfants, comme les miens, restent droits. Après, j'essaie juste de protéger mes enfants de ma peine. Je ne veux pas ajouter à leur souffrance, puis je veux surtout pas qu'ils se sentent responsables de moi. Ça fait que je leur cache que je dors avec les cendres de leur père dans mon lit, que je crie dans des coussins au sous-sol, que tous les soirs, je vais à la fenêtre voir s'ils ne seraient pas revenus. J'apprends à vivre la face boursouflée. J'enterre mes pleurs, mes peurs, puis ma culpabilité parce que j'ai longtemps pensé que si j'avais appelé plus tôt ce matin-là pour inviter mon chum à luncher, il serait encore là aujourd'hui. Peu de temps après les funérailles, je me retrouve dans la salle d'attente d'un garage. J'entends deux messieurs parler. « Hey, la veuve du petit policier de Bromont, là, elle va être millionnaire, cette femme-là, avec toutes les pensions qu'elle va recevoir. » Je me calme, j'approche lentement. « Messieurs, il n'y aura pas de pension, il n'y aura pas de millions. Ça faisait à peu près 5 mois que Vincent travaillait pour la police de Bromont. Je vais devoir travailler. Travailler à temps plein, être seul soutien de famille, ça me fait terriblement peur. Il faut savoir que juste avant le décès de Vincent, j'ai eu un diagnostic de trouble anxieux généralisé qui m'occasionne de pas pires défis au quotidien, principalement au travail. À cause de ça, on avait fait le choix que j'aurais plus d'emploi à temps plein. Ce que ces messieurs ne sauront jamais, c'est que j'ai eu de l'aide, mais peut-être pas de la façon dont on pourrait s'imaginer. Pendant quelques temps, j'ai eu du soutien de la CNESST et une autre aide, moins prévisible. Quand Vincent est décédé, ça faisait quelques semaines qu'on était de retour dans notre maison au Québec. Mon chum avait commencé sa carrière dans la GRC, en Alberta. Après quelques temps, il avait décidé de quitter la gendarmerie pour joindre le corps de police de la ville de Bromont. Après un déménagement coûteux, on n'avait plus de scène. Vincent avait donc décidé de réhypothéquer la maison sans prendre d'assurance-vie sur cet emprunt-là parce qu'on était trop serré financièrement. Un mois, presque jour pour jour, je rentre à la maison. Vincent est comme d'habitude en bobette puis en t-shirt dans le salon. Il me dit « Marie, j'ai repensé à mon affaire, là, je viens d'appeler. J'ai pris une assurance-vie sur l'hypothèque. Comme ça, si jamais je meurs, ben, tu seras pas dans la marde. J'y avais juste dit, toi, je t'interdis de mourir. » Mais ça a l'air qu'il ne m'a pas écouté. Malgré l'immense douleur qui m'a habitée, j'ai jamais détesté la femme qui a frappé Vincent avec son camion. De toute façon, je n'aurais pas pu la détester bien longtemps. Elle est morte à son tour 27 jours plus tard. Donc, 27 jours après avoir causé la mort de mon chum, elle décède à son tour dans un accident d'auto. Elle était seule au volant. Elle aurait perdu le contrôle de son véhicule tôt le matin dans un rang de campagne. Après ça, je me suis mise à avoir peur d'une affaire bien weird. Est-ce que elle et Vincent étaient des âmes sœurs s'étant retrouvées dans la mort? J'ai été vue par une psychiatre, paraît que je suis saine d'esprit, mais je dois avouer que cette idée-là m'a trotté dans la tête longtemps. En fait, jusqu'à ce moment où j'ai fait ce rêve si réel, où je rencontre Vincent là, comme s'il était devant moi, puis je lui demande, « Vois-tu cette femme? Est-ce qu'elle est proche de toi? » Puis lui de me répondre en me regardant droit dans les yeux, « Marie, j'ai jamais affaire à elle. » Après ça, ben, je pense que j'ai eu droit au plus beau câlin post-mortem qu'on puisse imaginer. J'ai senti mon chum dans mes bras, le tissu de sa chemise sur mon visage, son cou doux qui sentait bon, ses épaules puis ses bras que je serrais contre moi. À mon réveil, j'ai même un peu mal aux abdos parce que j'avais dû me relever pour le tenir dans mes bras. La veille du 5e anniversaire de décès, je suis tellement écœurée de pleurer. Il me semble que ça fait 5 ans que je broille presque tous les jours. Je mets un film, Le Petit Prince. C'est bizarre, mais vers la fin, c'est comme si je me sentais happée par ma télé. Comme si Vincent me parlait à travers les mots de Saint-Exupéry. Marie, toi, tu vas avoir des étoiles comme personne n'en a. Puis quand tu vas regarder le ciel la nuit, parce que maintenant je vais habiter l'une d'elles, et quand tu vas être consolée, parce qu'on se console toujours, tu vas être contente de m'avoir connue. Tu vas avoir envie de rire avec moi. Je me sens secouée, calme, détendue en même temps. Je sors dehors, je lève les yeux au ciel, c'est rempli d'étoiles, puis je souris. OK, c'est beau, je comprends. Je comprends que c'est ça que Vincent voudrait pour nous. Qu'on continue de rire. Qu'on continue de s'ouvrir à la vie. Aujourd'hui, mes enfants ont vécu plus de la moitié de leur existence sans leur père. Ça me déchire en deux juste d'y penser. J'ai tellement eu peur pour eux, mais j'ai arrêté de nourrir ça, ça fait longtemps. C'est des humains épanouis. Sage. Combien de fois ils m'ont dit, « Maman, pleurer, non? Ça ne le ramènera pas. » Christi, qu'ils sont forts. Ils tiennent de leur peur. Je n'ai pas encore trouvé de remède à ma peur de les perdre. Sinon, dans mes rituels d'au revoir, avec mes câlins conscients, pas pressés, les « je t'aime » et les bisous que je me fais un devoir de leur donner chaque fois qu'ils passent le pas de ma porte. Comme ça, je me dis que si on ne se revoit plus jamais, on se sera laissé sur une belle note. J'aurais aimé ça, pouvoir faire ça avec leur père, mais c'était un matin pressé, avec un « bonne journée » lancé du bout de la maison. Vincent avait la seule autopatrouille qui prend des photos toutes les 7 secondes. On m'a remis ces photos-là plusieurs mois après son décès. J'ai donc la face de mon chum 7 secondes avant sa mort. Il y a sûrement du soleil dans les yeux. Il y a des plis sur ses joues. Son visage est parfaitement concentré, sans aucune peur. Ça m'a tellement frappée, cette image-là. Je me suis dit, bon, ben OK, on a deux choix. Ou bien on laisse la peur nous pétrifier vivants puis contrôler nos existences. Ou bien on profite de toutes les secondes qui nous sont données. De toutes celles qui vont précéder les 7 secondes avant notre mort.
L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et interprétée par Marie Boucher. Elle a été enregistrée au Centre Phi le 12 novembre 2022 lors de la présentation de notre spectacle Histoire de peur. La prise de son a été effectuée par Novi Marin-Gagné. Le montage et la musique originale sont de Christian Brundelray. Et ce balado est une création des Productions de Brousse.